week-end d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Minuit 23 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Pascal au 39-21. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Pascal?
Ça va bien, mais je vous appelle parce que je suis une fidèle auditrice de votre émission.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tabou, je vous suis même dans vos émissions télévisées. Et si vous voulez, moi et ma famille, on vit un drame actuellement. On n'arrive pas à faire le deuil du décès de notre maman qui a eu lieu il y a 4 ans de cela,
oui,
dans un EHPAD situé dans le 44.
D'accord.
Et on est face à une situation, on est seul. Si vous voulez, je peux vous récapituler
allez-y, je vous
rapidement
en prie.
Les faits.
Allez-y.
Alors, si vous voulez, nous, on est une famille de 9 enfants. Et notre maman était atteinte de la macula, qui est donc une dégénérescence de la vue. Et donc, son quotidien était devenu très difficile à gérer. Ma mère n'acceptait pas cette dégénérescence. Et donc, son état de santé, quand même, s'était un petit peu dégradé, parce qu'on a su par la suite qu'elle ne mangeait pas, vu qu'elle n'acceptait pas cette macula. Et donc, on s'est dit, on va la mettre dans un EHPAD, elle sera bien, il y aura toujours quelqu'un pour prendre soin d'elle.
Mmh.
Et puis, les 2 premières années, maman n'a pas... Elle est rentrée dans cette EHPAD. Les 2 premières années, il n'y a eu aucun problème. Parce que maman n'était pas une femme compliquée, c'est une femme autonome. Elle, l'après-midi, elle regardait la télévision, aucun problème. La 3e année, c'est-à-dire en 2016, subitement, elle souffrait d'un tassement de vertèbres et elle passait des journées entières alitée parce que le personnel nous disait « nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de la faire marcher ». Donc, on a demandé au médecin de l'établissement d'intervenir. Il a décidé, vu les douleurs que maman éprouvait, de doubler les doses de codéine. Elle prenait il lui avait été prescrit 6 comprimés par jour. Mais le médecin avait dit, en raison de la forte dose, il faudra absolument me tenir informé des effets secondaires du traitement.
Oui.
Donc au matin du 13 avril 2016, elle commence son traitement. Et dans la journée, elle va s'endormir sous l'effet de la codéine. Et le soir, ils vont l'emmener au déjeuner, au dîner à 18h. Et là, elle fait un malaise, vraiment un malaise. On la ramène dans la chambre en fauteuil roulant. Et on l'assied dans son fauteuil et puis on la laisse seule. Et puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On nous a dit qu'elle avait fait plusieurs chutes dans la soirée, dans la nuit. On sait par les petites dames qui étaient proches de sa chambre qu'elle a appelé à l'aide une bonne partie de la nuit, mais que personne n'est venu. Et le 14 avril 2016, on nous a appelé en nous disant « Votre maman est décédée ». Et on est arrivé dans la chambre, elle était nue sous son drap, le visage totalement défiguré par un énorme hématome, elle avait une plaie à la tempe, on voyait qu'elle avait souffert. Parce que nous, notre mère, elle avait 93 ans, mais elle avait l'envie de vivre. Elle était toujours coquette, elle prenait soin d'elle et elle voulait vivre, elle nous le disait en plus. Elle disait « J'ai 93 ans, mais moi, j'ai encore envie de vivre. » Et puis, il s'en est suivi tout plein d'embryomémie. On a demandé des explications à l'établissement. On a eu des réunions. Alors, on a eu 4-5 réunions. Et là, c'était... on nous a menti. On nous a donné des versions édulcorées. Le lendemain, on nous redonnait une version. On a redemandé des réunions. Et là, au final, on a appris quoi ? Par l'infirmière présente le matin du décès de notre maman, que cette infirmière avait menti sur les circonstances du décès de notre maman sur ordre de sa hiérarchie. Et là, ben, on s'est dit, il y a quelque chose, c'est trouble, il s'est passé quelque chose. Elle est morte seule, elle avait 9 enfants, mais elle est morte seule.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
Là, ce qu'on a fait, on a pris un avocat, on a porté plainte. Il y a eu une enquête interne qui a été diligentée à l'intérieur de l'établissement. Et là, on a toujours eu des versions contradictoires, des mensonges. Enfin, donc, on a même eu, écoutez bien, Olivier, on a même eu 2 appels anonymes pour nous dire il s'est passé quelque chose.
D'accord.
Mais les personnes ont téléphoné, mais n'ont pas voulu donner leur nom.
Elles vous ont précisé quoi lors de cet appel anonyme? Est-ce qu'elles vous ont précisé travaillant dans cet EHPAD?
Non, justement, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle est leur fonction. On a eu 2 personnes qui... Alors, la première a dit qu'il s'était passé quelque chose. La deuxième a dit j'ai des scrupules, il faut que je m'exprime. Mais le problème, c'est mon neveu qui avait pris l'appel et il n'a pas demandé plus. Et cette personne a dit je rappellerai et elle a jamais rappelé.
Mmh.
Donc ce qui s'est passé après, ben, on a pris un avocat.
Oui.
L'avocate nous a dit bon, je rédige le dépôt de plainte. Il y a eu une enquête de gendarmerie qui a été faite. Du grand n'importe quoi, totalement bâclé. Les deux jeunes filles qui étaient là la nuit, qui avaient 80 résidents à s'occuper, n'ont pas été convoquées pendant l'enquête. Le directeur de l'établissement, il y a 3 mots dans l'enquête, il y a rien. L'infirmière qui a menti dit qu'elle a menti, que maman avait un hématome, enfin bref. Donc ça a été ça dans un premier temps. On nous a dit d'aller au conseil de l'ordre des infirmiers. Cette fameuse infirmière qui avait menti a accepté de nous parler. Elle nous a dit qu'elle ne se souvenait pas de l'hématome, alors qu'elle avait dit dans l'enquête que maman avait un hématome. Et même dans l'enquête interne, elle dit bien que maman avait un hématome, mais l'hématome l'appelait devant le conseil de l'ordre des infirmiers. Elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas.
Donc elle a menti.
On est allé voir une association, Prévenir et Réparer, à Saint-Nazaire, qui nous a dit on va vous aider.
Elle s'occupe
on va
de
vous
quoi
soutenir.
Elle s'occupe de quoi cette association?
Ben, ce sont tous les gens qui n'arrivent pas à... c'est une association qui accompagne les gens qui n'arrivent pas à avancer dans leur dossier. Donc là encore, on s'est dit, bon, on le fait, peut-être que ça va fonctionner. On se rend compte que quand on appelle, on est dépossédé de notre histoire. On nous dit on ne peut pas vous dire, madame, on a contacté la vice-procureure, mais on ne peut pas vous dire. Là, on a eu la chance d'avoir 2 rendez-vous d'1h30 avec la vice-procureure qui nous a, en mai 2019, elle nous a reçus, elle nous a dit qu'elle nous comprenait. On a refait tout le cheminement de notre histoire. Elle nous a dit « Je vous promets qu'il y aura un complément d'enquête ». Là, on est ressorti, on y a vraiment cru. Et ça fait 1 an, vraiment 1 an, Olivier, que comme je suis la représentante de la famille, hein, vu qu'on est quand même nombreux,
oui.
On ne peut pas chacun envoyer un mail. Donc, je suis la porte-parole, on envoie des mails, on appelle, on relance. Parfois, je l'ai eu au téléphone, cette vice-procureure. Elle me dit, madame, renvoyez-moi vos coordonnées. Je lui renvoie mon mail, je lui renvoie mon numéro de téléphone. On vient de lui envoyer une lettre commandée avec accusé réception. Nous n'avons pas de réponse. On ne sait pas si le complément d'enquête est entamé. On n'a aucune nouvelle de l'ordre des infirmiers, aucune nouvelle de l'association Prévenir et Réparer. Tout le monde nous laisse tomber. Voilà. Là, maintenant, j'en appelle aux auditeurs. Si quelqu'un vit, a vécu une tragédie comme la nôtre et qu'il connaît une association ou qu'il puisse nous donner un secours, quoi. Maintenant, on ne sait plus à qui s'adresser. On est seul. On ne peut pas faire notre deuil sur une histoire pareille. Ce n'est pas possible. Notre maman avait 9 enfants, elle est morte seule dans un EHPAD où elle dépensait par mois 2 800 euros sans les frais annexes. Du coup, elle a été obligée de revendre la maison, sa maison, que mon père était un simple ouvrier, mais il avait réussi à s'acheter cette petite maison. Elle a été obligée de la vendre pour visiter cette IPAD qui nous l'a tuée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus.
Oui.
On est abandonné. On
oui,
est
vous
abandonné.
Vous avez
par
ce
le
sentiment
système.
D'être abandonné. Alors, est-ce que vous pensez que ce complément d'enquête-là, comme ça, instinctivement, vous pensez que ce complément d'enquête n'aura pas lieu, il n'est pas en route, parce que vous savez, Pascal, que le temps de la justice, il n'est pas le même que le nôtre. Hein, donc ça peut prendre un peu de temps, cette histoire. Mais vous sentez
mais
comme
Olivier,
ça instinctivement qu'on vous a laissé tomber?
Oui, mais Olivier,
oui.
On connaît la justice. Hein. Moi, souvent, je regarde vos émissions. Hein. Je vois bien les douleurs hein, des participants. Mais non, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous réponde oui ou non. Il faut 2 secondes pour nous envoyer un mail et nous dire « elle nous l'a promis en mai 2019. Pourquoi elle ne nous dit pas oui ou non ?»
Oui, non, mais il est certain que si elle vous l'a promis et que vous n'avez plus de nouvelles, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez plus de nouvelles.
L'avocate, je lui ai reposé la question. L'avocate lui a envoyé 2 courriers en lui disant, elle a fait un appel au nom de la famille et même l'avocate, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, je ne comprends pas. Elle me dit, dans ces cas-là, saisissez le procureur de Rennes. Mais elle me répond, je ne sais pas s'il vous répondra. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, si tout le monde décide de répondre arbitrairement, oui ou non? Pourquoi déposer plainte? Pourquoi aller dans les associations? Pourquoi aller au Conseil de l'Ordre? On a même témoigné à l'émission de Jean-Jacques Bourdin,
oui.
Au moment où il y avait tant de décès dans les IPAD.
Oui.
Et à aujourd'hui, 4 ans plus tard, même plus que 4 ans, on est seul. On ne sait plus où ça. Qui va nous aider? Pourquoi cette vice-procureure ne prend pas? Elle sent bien la douleur de la famille. Elle l'a même dit elle-même. Je vous comprends.
Mmh.
Alors, pourquoi ça fait un an?
Vous qui nous écoutez, si vous traversez ou si vous avez traversé une mésaventure comme Pascal et sa famille, n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Peut-être que vous pourrez échanger avec Pascal et peut-être lui faire part de vos observations quant à ce qu'elle vit par rapport à ce que vous avez vécu. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Oui, ce qui est troublant, c'est que il y a quand même eu une enquête. Il y a eu quand même soupçon de maltraitance, si je comprends bien.
Oui, il y a eu une enquête. Alors, il y a eu une enquête interne à l'intérieur de l'IPAD parce que préalablement à cette enquête interne, il y a eu 4-5 réunions où le personnel soignant se contredisait, nous déversait des scénarios mais qui ne pouvaient pas exister.
Alors, racontez-moi ça. Quel type de scénario, quel type de contradiction vous ont mis la puce à l'oreille?
Alors, on nous a dit que les 2 jeunes femmes qui étaient de permanence le soir, 80 résidents à s'occuper, plus le ménage à faire. On nous a dit qu'ils étaient arrivés, que pendant la nuit, à vers 1h du matin, ils étaient rentrés dans la chambre et qu'ils avaient fait la chaise à notre mère qui, comme elle prenait un laxatif, demandait à aller aux toilettes.
Oui.
Mais faire la chaise dans l'état où était notre maman, vu la douleur qu'elle avait, c'est impossible.
Mais elle était sur sa chaise à 1h du matin encore?
Non, et vous savez, c'est comme, il croise les bras et notre maman doit s'asseoir sur les bras du personnel.
D'accord.
Pour être emmenée dans les toilettes. Et après, elle leur entoure les épaules. Mais c'est impossible. C'est, vu la douleur qu'elle avait, c'était impossible.
Mmh.
On nous a dit après, on nous a dit, alors ça c'était au bout de 10 réunions, qu'elle avait le matin au petit déjeuner, elle avait vomi. Mais dans une réunion précédente, on nous avait dit que notre maman avait très bien déjeuné et qu'en plus, elle avait très bien parlé. Et moi, je m'en souviens très bien, parce que j'avais dit à l'infirmière qui nous a menti sur les circonstances de son décès, je lui ai dit, ce n'est pas possible que maman vous ait très bien parlé, parce que c'était quelqu'un de sauvage. Donc, ce n'était pas une femme qui communiquait. Elle était très respectueuse des autres, mais elle ne parlait pas beaucoup. Elle parlait à ses enfants, mais autrement, non. Bien parler au petit déjeuner, c'est pas possible. Et puis alors, Olivier, si j'avais la possibilité de vous envoyer une photo de notre maman sur son lit de mort, maquillée, vous seriez comme la vice-procureure, je pense que vous diriez, oui, il s'est passé quelque chose. Et là, on ne sait plus. C'est quoi ce système? C'est quoi la justice? C'est quoi le conseil de l'ordre des infirmiers? À quoi servent les associations? À quoi sert la presse? Parce que Jean-Jacques Bourdin, il n'est pas revenu vers nous. On est seul. Personne ne nous... Comprenez, elle avait 93 ans. On s'est même entendu dire, mais qu'est-ce que tu t'acharnes avec ton dépôt de plainte? Elle avait 93 ans.
Mais ça n'a
rien
à voir.
Elle a bien vécu.
Mais ça n'a rien à voir. Elle est morte dans des circonstances plus qu'étranges où on vous a menti qu'elle ait 93 ans ou 40 ans. Voilà, c'est la même chose. Là, il y a quelque chose. En tout cas, on a failli dans le système qui était censé prendre soin de votre maman. C'est ça.
Mais vous savez, Olivier, excusez-moi, je vous coupe. Dans l'IPAD, on s'est entendu dire, elle avait 93 ans, nous n'avions pas à appeler le SAMU ni les pompiers. Et moi,
on vous a dit ça. Qui vous a dit ça?
Oui, ben, le personnel soignant. On nous a dit, elle avait 93 ans, il ne serait pas venu. Et moi, mon gendre, il est pompier, et il m'a dit, il a vu les circonstances du décès de ma maman, il m'a dit, quelles que soient les circonstances, on vient. Et j'ai appelé le 15 pour me faire confirmer. J'ai raconté mon histoire et la dame m'a dit, mais non, mais il n'y a pas d'âge. Nous serions venus. Moi, je vous dis, Olivier, ils ne sont pas venus. Pendant la nuit, notre maman est morte seule. Et donc, on ne peut pas l'accepter, ça. On ne peut pas faire notre deuil. Mais maintenant, on ne sait plus à qui s'adresser.
Oui, parce que vous êtes allé loin dans vos démarches.
Oui, mais maintenant, on ne sait plus quoi faire.
Ça aurait dû déboucher. Ça aurait dû, normalement, vous vous attendiez à ce que ça débouche sur quoi? Sur une mise en cause de l'EHPAD.
Nous, on ne demande pas d'argent. Nous, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous, on veut savoir la vérité.
Ce qui s'est passé.
Et voilà, on veut savoir la vérité. Et on veut quand même démontrer que l'IPAD n'a pas pris ses responsabilités. Un IPAD, surtout à 2800 euros, alors il y a 4 ans de ça, donc je ne vous dis pas le tarif actuellement, un IPAD, c'est fait pour prendre soin des personnes de grand âge. Et là, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, Olivier, ils ont couché ma mère, ils l'ont laissée, et notre maman, comme elle était sous laxative, elle a voulu se lever, elle est tombée.
Toute seule.
Et elle est morte seule. Elle est morte seule. Mmh. On a retrouvé elle avait des appareils auditifs. Moi, je l'ai vu, il y avait des piles au sol. Elle est morte seule. Et j'ai oublié de vous dire que quand on est venu le 14 avril 2016 dans la chambre, notre maman, elle était nue sous son drap et la chambre avait été totalement aseptisée. Il n'y avait plus de serviettes dans la salle de bain, il n'y avait plus rien. Tout avait disparu.
Et à votre avis, pourquoi? Pour nettoyer les traces de quelque chose.
Ouais. Il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on fait notre deuil? Comment on y arrive? La société
C'est très compliqué.
La société nous abandonne. On a pris un avocat, on a fait un dépôt de plainte, on est allé devant le conseil de l'ordre des infirmiers, on est allé devant une association, on est allé sur l'antenne de Jean-Jacques Bourdin, on nous a fait une promesse d'un complément d'enquête, on nous l'a promis. Et là, ça fait un an que j'envoie des mails, j'appelle, je réappelle. On me dit qu'elle va, on me dit qu'elle a pas le temps, qu'elle a une masse de dossiers, qu'elle ne peut pas nous répondre. On vient lui envoyer un courrier recommandé. On a récapitulé tous nos mails, tous nos appels. Et là, à aujourd'hui, on sait qu'elle l'a reçu, le courrier. Elle ne met même pas un petit mail en disant « oui, je l'ai entamé » ou « non, je ne l'ai pas entamé ». Moi, je trouve ça inhumain.
Oui, c'est assez inhumain.
Inhumain.
Lorsqu'elle vous a reçu il y a un an maintenant, ça a duré combien de temps et comment s'est passée cette entrevue?
Très bien, très très bien. Elle a complètement compris, elle nous a reçus une première fois en décembre 2018. On a été reçus plus d'une heure et demie, on s'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a fait transmettre la photo de notre maman sur son lit de mort et elle a réagi et elle a accepté ce rendez-vous en décembre 2018. Et le rendez-vous, j'étais avec une de mes sœurs, c'est très très bien passé. Ça a été très courtois, elle nous a écoutés, on est resté plus d'une heure et demie avec elle. Ensuite, elle nous a re-reçus en mai 2019. Même chose, on a tout, pour lui simplifier la vie, on avait retravaillé tous les dossiers, tous nos dossiers que nous avions, avec les dates précises, les dates des réunions et tout, pour qu'elle prépare le complément d'enquête et lui faciliter la tâche. Là, on a été reçu encore une heure et demie, même plus d'une heure et demie. Même notre avocate nous a dit, c'est de l'inédit. Qu'une vice-procureure vous reçoive autant de temps.
Oui, oui, c'est ça.
C'est de l'inédit.
C'est ça qui est troublant dans votre histoire, c'est que normalement, je vais vous dire, en plus, cet EHPAD, c'est du public ou du privé?
Non, c'est du privé.
D'accord. Ce qui est étonnant, c'est que vous ayez été reçu par une vice-procureure aussi longtemps.
Voilà.
Parce que si on vous a reçu aussi longtemps dans un cadre de justice, donc là où en fait on manque de temps et de moyens dans cette justice, oui. C'est qu'il y avait quelque chose d'embêtant dans votre histoire, à mon avis.
Mais oui.
Voilà, et que vous n'ayez plus de nouvelles. Vous êtes sûr que elle n'est pas en train de conclure, et que peut-être vous aurez des nouvelles dans quelques semaines ou quelques mois?
Mais Olivier, pourquoi elle ne nous... Je lui ai renvoyé un mail, là.
Pascal, c'est un grand classique, la justice de ne pas répondre. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est censée devoir vous répondre à chaque fois que... Je ne sais pas.
Olivier, j'ai oublié de vous dire, c'est que lors des deux entretiens, elle m'a donné sa ligne de téléphone directe.
Ah oui,
et elle m'a dit, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ça fait un an que je lui demande, juste, elle nous a dit, envoyez un mail, dites quels sont les membres de votre famille qui veulent être auditionnés dans le cadre du complément d'enquête. Et là, depuis un an, elle nous tient en haleine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller faire la grève de la faim au palais de justice de Saint-Nazaire? Parce que ça, c'est un EHPAD qui est dans le 44. Qu'est-ce qu'on fait, là? Mais c'est pas... Non, moi, je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Je le dois à ma mère. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, mes parents, c'était des simples ouvriers. Ma mère n'a jamais travaillé parce que 9 grossesses,
9 enfants.
C'est impossible.
Elle a travaillé, votre maman. Elle a travaillé.
Elle a travaillé, ben
oui.
Exactement.
9 enfants, c'est du boulot.
Mon père était à l'aérospatiale. Ils ont acheté cette petite maison. Là, elle est dans un EHPAD. Il faut qu'elle le paye. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est obligée de la vendre, la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de plus dans les EHPAD? Et en plus, ils ne prennent pas soin de nos aînés. C'est pas normal.
Non.
Moi, je refuse les 93 ans. Ma mère avait envie
ça,
de vivre.
Pascal, vous faites bien de refuser ce genre de commentaires ou d'arguments. D'autant plus que, comme votre beau-frère ou votre cousin est pompier, je ne vois pas comment on a pu vous dire que le SAMU ou les pompiers, c'est ça, ne se seraient pas déplacés pour une dame de 93 ans. C'est totalement inadmissible de dire un truc pareil, parce que votre maman était tombée. Donc, c'est bien ça. On vous a dit qu'elle était tombée, donc si elle avait été mourante, on n'aurait pas pu... on n'aurait pas appelé. Ils ne seraient pas venus.
Ils nous ont dit, vu son grand âge, ils ne seraient pas venus.
Mais non, mais... Est-ce qu'ils ont dû jouer ça?
C'est pas ce que m'a dit le 15, pas ce que m'a dit mon gendre.
Mais heureusement que les pompiers se déplacent même pour des personnes âgées, et ils se déplacent souvent, on les voit partout lorsqu'on circule. On voit souvent les pompiers se déplacer ou des ambulanciers. On fait attention aux gens, à nos aînés, comme vous dites. Donc, non, je crois que l'histoire, votre histoire, elle est symptomatique de certains EHPAD où il y a un laisser-aller, là où il y en a d'autres qui font leur boulot ultra sérieusement. On l'a vu il y a 2 ans à peine.
Je crois que
sur France 2, il y avait eu, dans le cadre d'Envoyé spécial, où je ne sais plus, mais il y avait eu quelque chose de très choquant sur les EHPAD.
Oui, Bélie Gusset, oui.
Oui,
mais vous savez, Olivier, c'est l'argent qui prime. Notre maman, tant qu'elle regardait tranquillement sa télévision l'après-midi, qu'elle ne dérangeait pas, qu'à 18h, elle allait manger tranquillement, après, on lui retirait ses bas de contention, on la mettait au lit, bon, elle disait rien. Mais dès qu'elle a eu mal au dos, on nous a raconté des choses, qu'elle perdait la tête, mais qui étaient fausses, puisque ma mère nous disait « mais elles veulent me faire passer pour folle ». Mais comment on peut entendre des choses comme ça ?
Je ne vous ai pas posé la question, mais votre maman, vous l'avez vue quand pour la dernière fois ? Et quel commentaire vous faisait-elle sur la manière dont elle était traitée dans cette EHPAD ? Est-ce qu'elle s'en est ouverte à vous ?
Eh bien, là, les derniers temps, on s'est rendu compte qu'il nous racontait des choses. Il nous disait que notre maman perdait la tête, qu'elle prenait pas sa douche, qu'il lui donnait sa douche, mais qu'en fin de compte, elle oubliait qu'il lui avait donné sa douche. Ce qui était faux, parce que moi, j'ai eu une de mes sœurs qui a été un jour, et non, la douche n'était pas du tout humide. C'est parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de la doucher, il n'avait pas le temps de la faire marcher. Alors que quand on a mal au dos, il ne faut pas rester allongé. Moi, je sais, j'ai un problème de dos. Quand j'ai mal au dos, je bouge.
Non,
sinon, j'ai horrible.
Et puis, encore une fois, Pascal, d'où il n'avait pas le temps de s'occuper de l'une de leurs 80 patientes. On est d'accord que s'il y a 80 places, c'est parce qu'on est censé pouvoir s'occuper des 80 patients. Non ?
Si
vous avez fait appel au médecin, c'est bien pour faire appel de cette décision de l'EHPAD de ne pas s'occuper de votre maman. Au début, vous m'avez dit, vous avez fait appel au médecin suite à, justement au fait qu'on vous dise non, on n'a pas le temps de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin ?
C'est parce qu'elle souffrait énormément et c'était le médecin ce qu'on appelle dans les EHPAD le médecin coordinateur. Donc, c'est lui qui suivait maman. Donc, comme il voyait que les douleurs augmentaient, comme on est nombreux dans la famille, donc on avait pris chacun notre fonction. J'ai une de mes sœurs qui s'occupait de la partie médicale. Donc, c'était à elle d'appeler le médecin coordinateur. Elle l'a fait. Elle lui a expliqué les diverses douleurs de maman. Et le médecin a dit, je vais doubler les doses de codéine. Je vais lui donner 6 comprimés par jour. Une de mes sœurs est allée le 13 avril 2016, dans l'après-midi, elle a vu maman. Maman s'est assoupie dans le canapé, mais c'était certainement sous l'effet de la codéine. Mais bon, ça allait un petit peu mieux. Et ça s'est complètement dégradé, c'est quand elle est passée à table. Et même les petites dames, les petites résidentes qui étaient proches de sa chambre nous en ont parlé. Elles nous ont dit, on a entendu votre maman appeler à l'aide.
La nuit. La nuit, il n'y avait que 2 personnes dans cette EHPAD.
2 personnes pour 80 résidents, et ces 2 personnes devaient également faire le ménage.
Oui, non mais à 2800 euros le mois, 2 personnes pour 80 patients la nuit. Ça me paraît un peu court.
Il y a 4 ans. Il y a quatre ans, donc les tarifs ont dû
augmenter.
Oui,
enfin, ils ont dû, même si c'est 3 000 euros maintenant, Pascal, enfin, lorsqu'on paye ce prix-là, deux personnes la nuit pour 80, bon, ça me semble, mais bon,
je vous dirais, Olivier, que ces deux personnes, les deux jeunes filles qui étaient là lors de la nuit, qui nous ont donné des scénarios à la brique, à la broque.
Dites-moi.
Un jour, elles sont venues régulièrement dans la nuit. Là, à 1h du matin, elles lui ont fait la chaise. Après, elles sont revenues plus tard. Maman dormait d'un sommeil profond. C'est pas possible quand on
Donc,
a mal au dos.
Les petites dames qui l'ont entendu hurler toute la nuit, elles ont rêvé.
Alors, les petites dames, après, elles ont dit, après, nous, comme elles prennent des somnifères, elles nous ont dit, au début de la soirée, on a entendu votre maman appeler à l'aide.
Oui.
Mais elle dit, après, elles se sont excusées, elles avaient même les larmes aux yeux. Elles ont dit, on s'est endormi. Donc,
on s'est endormi.
Voilà.
Qui ça?
Bah, les résidentes qui dont les chambres étaient proches de la chambre.
D'accord.
De notre mère.
D'accord, oui. Parce que je pensais que vous me parliez des deux jeunes filles. Donc là, je.
Bon. Ah ben, les deux jeunes filles, vous savez, Olivier, quand il y avait la réunion, ben, elles souriaient d'une façon désinvolte. C'était banal.
Oui, c'était banal.
Comment on peut accepter ça? Comment on peut faire notre deuil, nous? Moi, je vais vous dire, j'y pense, je sais plus quoi faire. Je me suis dit, je vais aller faire la grève de la faim au palais de justice. Je vais être reçue une énième fois, mais il faut que je fasse quelque chose. Je le dois à ma mère, c'est pas possible. Mmh.
Est-ce que vous avez tenté d'alerter la presse par rapport à tout ça? C'est-à-dire constituer un dossier avec toutes les démarches que vous avez faites et mettre la presse locale, Ouest-France
On l'a pas fait encore.
Vous devriez le faire.
On va le faire, ça va nous...
À partir du moment où vous avez été reçu par la vice-procureure, deux fois, une heure, à partir du moment...
Une heure et demie,
à partir du moment où on vous a promis des choses, et ça n'est pas personne qui vous a promis, c'est l'État qui vous a promis à travers cette vice-procureure qu'il y allait avoir une enquête approfondie, en tout cas un complément d'enquête. Donc ça veut dire que déjà, au niveau de la justice, on a des suspicions sur le bon fonctionnement, cette nuit-là, en tout cas, concernant votre maman. Ça, c'est certain. Donc, je pense que la presse prendra très au sérieux votre histoire. Il faut... Vous savez, la presse, ça peut être un bon contre-pouvoir. Hein. Tout dépend, vous voyez, si vous êtes à Saint-Laurent-du-Var ou si vous êtes dans une région... Je dis ça parce qu'au début de l'émission, vous voyez, il y a une dame qui nous appelait pour une histoire de, sans doute, voilà, je vais pas dire de corruption, mais en tout cas de salade niçoise, mais de salade du Sud, où on sent qu'il y a des petits arrangements entre amis et où on est peu de choses en fait en tant que citoyen.
Vous
avez une histoire là où il s'agit d'un dysfonctionnement dans un EHPAD, de mort. De circonstances du décès de votre maman, sans doute dû à un dysfonctionnement de cet EHPAD, il est du devoir, en tout cas de la presse, de relayer votre histoire. Et vous pouvez, sans problème, lorsque vous allez aller les voir chez nos confrères de West France, leur dire que nous en avons longuement discuté déjà. Parce qu'il faut, vous savez, dans ce genre de problème, malheureusement, les gens ne comprennent que la pression, la guerre. Malheureusement, il faut les bousculer. Alors, je ne dis pas qu'il faut bousculer cette vice-procureure, hein, parce que encore une fois, peut-être est-elle débordée, et peut-être.
Mais pourquoi pas une...
Mais elle ne vous répond pas. C'est vrai que c'était c'est ça. C'est,
juste
ça
un
prend,
oui,
ça
juste
prend,
un non.
Ça prend 1 minute 30. Une minute. Bon.
J'ai même, Olivier, envoyé un mail à la ministre de la Justice. Qui m'a dit de contacter l'ARS, l'Agence régionale de santé. On l'a fait. Il y a eu la commission des familles de cet EHPAD avait demandé également que cet établissement soit visité. Elle l'avait demandé à l'ARS. Première demande. Il y avait déjà eu une première demande en 2015. Là, il y a eu une deuxième demande qui a été faite en 2019. Nous, on a fait le courrier, comme nous l'a dit la ministre. On les a contactés. Eh bien, vous savez ce qu'on a eu ? On a eu 84 pages de... Ils ont fait une enquête.
De procès-verbal.
Mais non, mais c'était du fictif. C'était du fictif, c'était le nombre de résidents, c'était purement administratif, rien, du blabla. C'est quoi l'ARS aussi ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Je pense que le... Encore une fois, hein, Pascal, il faut que vous essayiez de, avec tous le dossier que vous avez constitué, de maintenant d'aller voir la presse, parce que je pense que vous avez quand même pas mal d'éléments à leur montrer. Donc, rapprochez-vous de Ouest France en leur disant que vous avez été reçu par Jean-Jacques Bourdin, qu'on en a longuement parlé ensemble et que c'est sur mes conseils que vous venez les voir. Je pense que vous serez pris au sérieux, hein, vraiment. Et tenez-moi au courant de la manière dont vous avez été reçu par la presse, voir s'il y a un journaliste qui va s'en occuper. Vraiment, faites ça et tenez-moi au courant, Pascal. D'accord ?
Et je vous rappelle vous, sur la libre antenne.
Exactement, vous rappelez Florian au 3921 et puis on se reparlera à l'antenne pour que vous me donniez des nouvelles. D'accord ?
D'accord, et si j'ai des nouvelles...
Quand vous avez des nouvelles, vous m'appelez, Pascal. D'accord ?
Mais moi, Olivier, est-ce que vous auriez des auditeurs ?
C'est la fin de l'émission, Pascal, je suis désolé. Alors, vous ne raccrochez pas, Florian va vous donner tous les détails, si vous avez des questions à lui poser, d'accord ? Je vous embrasse,
d'accord.
Et puis ne raccrochez pas, Florian va vous prendre. Je vous en prie, au revoir, Pascal, et tenez-moi
au
courant.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne qui a été pour un lundi. Eh bien, je crois qu'on annonce une semaine... Une bonne semaine où vous allez nous parler. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et puis, on se retrouve demain à partir de 22h30 sur Europe. Salut. Europe 1, il est 1h du matin.